Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Frédéric Vitoux, qui a été reçu à l'Académie française le 27 mars 2003. Frédéric Vitoux, romancier, scénariste, essayiste, critique littéraire, musicologue et j'en passe, et qui vient de publier chez Fayard un roman intitulé « Grand Hôtel Nelson ». Frédéric Vitoux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre roman « Grand Hôtel Nelson » est construit d'une manière très originale. Il commence comme une enquête familiale, jusqu'à la page 120. Et puis là, ça se transforme en un roman de 273 pages, qui est une sorte de récit imaginaire de la jeunesse de votre grand-père, Georges Vitoux, à la belle époque. Un grand-père à la personnalité à la fois étrange et brillante. Alors, pourquoi cette démarche ?
Cette démarche est venue du fait que, pendant longtemps, cet homme, mon grand-père, qui est mort en 1933, autrement dit 11 ans avant ma naissance, était un homme dont mon père, qui avait été élevé relativement loin de lui, plus sous l'emprise de sa mère que de son père, mon père me disait toujours « Ah, si tu l'avais connu, tu te serais bien entendu avec ton grand-père ». Et au fond, j'étais toujours marqué, après la mort de mon père, depuis de longues années, par cette phrase « Tu te serais bien entendu avec ton grand-père ». Et en quelque sorte, à partir d'une enquête qui se suit, en effet, comme vous l'avez dit, par une sorte de mise en mouvement du grand-père, j'ai voulu essayer de le faire revivre par ces deux démarches, l'enquête et la vie en mouvement, la vie romanesque, pour savoir si je me serais bien entendu avec lui.
On regardera la réponse, mais cette façon de construire un livre, ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Votre premier roman, Carte postale, c'est un peu ça. Il y a 800 cartes postales, c'est la vie d'une femme de 1900 à 1920, et allons-y, vous imaginez sa vie.
Oui.
C'est un peu le même principe.
C'est un peu le même principe, vous avez raison, j'y avais pas pensé. C'est un peu le même principe. J'aurais deux réponses à cela. J'aime les contraintes. Vous savez la fameuse phrase de Cocteau, « L'art vit de contraintes et meurt de liberté ». J'aime bien me donner des contraintes. Mais dans « Carte postale », c'était un jeu romanesque, un jeu littéraire très loin de moi. Dans ce cas-là, c'était un petit peu différent. J'avais besoin, comment dirais-je, de tirer un petit fil pour dévider la pelote de la vie de mon grand-père. Et ce petit fil, je l'ai trouvé, un peu inspiré par un de mes amis photographes qui m'a dit « Mais tu devrais peut-être écrire un livre là-dessus, sur la découverte que j'ai faite il y a quelques années dans un placard de ma maison. » Il se trouve que j'ai la chance d'habiter un appartement où je suis né, où mon père est physiquement né en 1908 et que mon grand-père a occupé au début du XXe siècle.
Donc, j'ai plus dans un endroit extraordinaire, c'est Quai d'Anjou à l'île Saint-Louis, voilà. À Paris.
Donc j'ai difficilement rêvé mieux. Privilégié. Mon grand-père, au moment où il s'est marié en 1905-1906, a choisi de louer dans cet appartement très beau, à une époque où l'île Saint-Louis n'était totalement pas à la mode. C'était marqué à louer, personne ne voulait habiter l'île Saint-Louis, ce quartier si singulier, si froid, si humide, si à l'est de Paris, si peu chic. Bon. Et donc, je découvre des négatifs sur verre de photos pornographiques qui appartenaient à mon grand-père, qui était un collectionneur, qui était un homme qui avait la manie de tout collectionner, de tout garder, des affiches de la guerre de 14, des médailles. Bien sûr, il était bibliophile. Et je vois ces photos que je montre à l'époque quand je les avais découvertes à mon père, je me souviens très bien. Un jour, j'ai découvert, j'étais marié d'ailleurs, et j'appelle mon père et je lui dis « Tu connaissais ces photographies ?» Il me dit « Quoi ?» Et je lui montre les négatifs sur verre qu'on regarde par transparence devant une vitre sur la Seine. Il les regarde et mon père, qui était très soucieux de garder son contrôle, très flegmatique, il s'y efforçait en tout cas, me fait comme seul commentaire « Oui, bon, n'en parle pas à ta mère ». C'était le seul commentaire qu'il faisait sur des photos pornographiques assez banales, des scènes sans doute de bordel, de femmes entre elles, d'hommes et de femmes dans les positions habituelles, très bien. Mais ces photos m'ont amusé quand je les ai redécouvertes, quand je les ai retrouvées une deuxième fois, si je puis dire, il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas le point de départ, le petit bout du fil d'une pelote que je pourrais dévider pour essayer de mieux comprendre mon grand-père? Comment avait-il ses cartes postales? Est-ce qu'il était dans ses maisons closes? Qu'il était un obsédé sexuel? Est-ce qu'il était un collectionneur? Quels étaient les rapports? Et donc, je réfléchis. Je réfléchis à ces photos, un rapport d'abord de mon père et de la sexualité, mon père si pudique, si introverti, qui ne parlait pas de ces choses-là. Donc, je réfléchis, puis je mène une enquête. Parce qu'il y avait cette en-tête qui donne le titre au livre, d'ailleurs, Grand Hôtel Nelson, qui était sur les négatifs sur verre. Et donc, je m'amuse à rassembler un maximum d'éléments, mais aussi de fantasmagories. Par exemple, sur Google, le moteur de recherche Google, je tape pour m'amuser « Grand Hôtel Nelson ». C'est Grand Hôtel Nelson, il y avait l'adresse, il existe toujours cet hôtel, mais maintenant, il s'appelle Grand Hôtel Peupeltier-Haussmann. Il a l'air apparemment normal, pas du tout une maison close, même clandestine. Et je tombe sur un site, Grand Hôtel Nelson. Alors, c'est incroyable. Et puis, je me rends compte, pas du tout. C'était un grand hôtel qui s'appelait Grand Hôtel dans une ville qui s'appelle Nelson, en Colombie-Britannique, au Canada. Donc, rien à voir. Mais comme le plaisir de naviguer sur la toile, c'est un peu celui qu'on éprouve à lire une encyclopédie, vous savez, à regarder, même si on cherche un article, de regarder ce qui est avant, ce qui est après, mais s'il n'y a rien à voir. Puis, je me rends compte qu'à côté du Grand Hôtel Nelson, il y a une église qui est la copie de l'église de la Madeleine à Paris. La copie. Incroyable, dans cette ville perdue des rocheuses canadiennes, la copie de l'église de la Madeleine à Paris. Puis Madeleine, naturellement, c'est la prostituée hein, dans les évangiles, dans l'imaginaire chrétien. Deux Madeleines, qu'on confond hein, d'ailleurs les deux, Marie Magdeleine et puis la Marie la pécheresse qui va dans la maison du pharisien. Et donc, c'est la prostituée. Donc, tout ça fait des associations d'esprit, d'idées, des trucs. Et tout ça me fait, au bout du compte, plein de petites pièces de puzzle. Et c'est à partir de ces petites pièces de puzzle, et je pourrais encore en développer si vous le souhaitez, que je me suis dit, essayons de réinventer la vie de cet homme, mon grand-père.
Alors on va essayer, si vous voulez nous, de recomposer la belle époque à travers ce livre, et puis après cela, donc, d'essayer de mieux comprendre vos relations avec votre père, surtout, à travers cette histoire. Alors, la belle époque, vous portez un jugement très très contrasté sur elle. Commençons par le positif, c'est évidemment une époque de bouillonnement créatif, mais surtout, vous nous expliquez que c'est une époque où l'on change de perception du temps.
Oui, cette belle époque qui n'est pas... Je ne suis pas historien, je ne me suis pas particulièrement penché depuis longtemps sur cette période. Cette période, en effet, m'inspire des sentiments très contradictoires. Objectivement, je suis fasciné par ce bouillonnement créatif dans l'art et dans la science qui fait que tout notre monde moderne vient de là. Les premières découvertes de l'atome, des rayons X, la mécanique quantique, tout vient de cette période qui est aussi une période extrêmement créatrice de l'art moderne où tout s'invente, se crée. C'est incroyable ce bouillonnement.
Et puis d'un autre côté, au nom du positivisme.
Et d'un autre côté, je vois dans cette fin du 19e siècle, dont mon grand-père, personnage très secondaire de cette époque, bien sûr, ce n'est pas un grand nom de cette époque, un homme qui a fait des études brèves, qui a été répétiteur, instituteur, professeur dans des lycées à Château-Thierry, partout, mais qui est un homme curieux, travaille dans des revues scientifiques, s'occupe d'alchimie, bon, on y reviendra, essaye de réconcilier tout le spiritisme de l'époque, qui était très à la mode, les mages, le sarpélade, bon, etc., avec une certaine rationalité scientifique. Ce siècle me paraît irritant, par ce mélange de rationalisme qui veut tout remettre en forme, cet athéisme un peu idiot, ce côté un peu bourgeois vicelard, les maisons closes, ces corruptions de cette Troisième République à l'époque des grands scandales, Panama et autres, ce racisme latent dont Édouard Drumont, avec la France juive, va être un des héros, avec après quand il créera la libre parole, oui. Etc. Et donc il y a un mélange, comment dirais-je, de positivisme replet, de voyeurisme et de côté vicelard, hypocrite. À l'époque, j'ai fait des enquêtes auprès de la préfecture de police et je voyais la répression sur les malheureuses filles qui vendaient des photos nues dans les rues, qui avaient des mois de prison, alors que dans les maisons closes, tout était possible parce que c'était bien clos, comme leur nom l'indique, mais qu'il y avait une sorte de répression hypocrite, puritaine, mêlée à une sorte d'hypocrisie vicelarde. Et tout ce climat de la belle époque, au fond, assez me dégoûte par certains côtés. Et puis c'est aussi tout ce qui va amener, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, évidemment, avec tous ces nationalismes étroits, etc., et ces déchaînements de haine et de violence, et tout ce qui va aboutir, au fond, à cette boucherie de la guerre de 14.
Car pour vous, il y a un lien entre Belle Époque et guerre de 14.
Ouais. Oui, pour moi, c'est vraiment cette belle époque, si bien ou mal nommée, est à la fois ce qui annonce le monde moderne dans tout ce qu'il a de plus fécond, scientifiquement et même artistiquement, et en même temps, dans ses impasses, amène à l'écroulement de l'Europe.
Oui, mais vous dites non seulement que ça amène donc les massacres de la Grande Guerre, l'effondrement de l'Europe, la manipulation nationaliste des peuples. C'est beaucoup quand même, vous lui faites porter beaucoup à cette belle époque.
Je lui fais porter beaucoup parce que je ne suis pas un historien, je suis un romancier qui me laisse emporter et je trouve que la passion fait vivre les choses. Et comme je suis un romancier, je mets en scène des personnages et ces personnages, mon grand-père et d'autres, à la fois me fascinent et je m'en sens très lointain.
Ça vous le dites à la fin du livre, mais le trait dominant, c'est l'hypocrisie avec cette distinction fondamentale que vous faites entre l'intérieur et l'extérieur.
Oui,
c'est ça.
C'est ça. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire qu'à la fois, je suis très excité par la curiosité infatigable. Ce souci aussi qui est assez beau d'éducation. Par exemple, mon grand-père travaille à l'Année scientifique, qui est une publication que fait Hachette et qui est signée d'un homme qui s'appelle Louis Figuier, qui se soucie de vulgarisation, d'appeler les gens à la connaissance, leur expliquer ce que sont les découvertes de la médecine, de l'aéronautique, l'invention du cinéma, qui est quand même un truc prodigieux qui va changer notre civilisation quand même. Le 28 décembre 1895, la première projection du cinéma.
Et d'ailleurs, votre grand-père comprend, avant les frères Lumière eux-mêmes, la portée artistique de cette innovation. C'est étonnant, ça.
C'est étonnant, c'est qu'en effet, mon grand-père, en début de l'année 1896, chez un petit éditeur que les spécialistes connaissent, s'appelle Chamuel, publie un livre sur la photographie du mouvement qui se termine par le cinématographe et où il imagine toutes les possibilités à venir du cinéma. En effet, alors que les frères Lumière, à l'époque, pensent encore que ce n'est qu'une curiosité scientifique sans avenir industriel. Il imagine que le cinéma pourra être en couleur, pourra être parlant, pourra filmer les comptes rendus de la Chambre des députés, pourra filmer des batailles, pourra transmettre des opéras d'un bout du monde à l'autre, pourra raconter des histoires, pourra être pédagogique. Et mon grand-père, comment dire, entraîné par ce grand élan positiviste et cette confiance en l'homme, l'homme sans aucune échappée métaphysique, aucune échappée spirituelle, hein. On est l'homme, on est dans le positivisme total, n'hésite pas à prédire au cinéma un avenir qu'il aura.
Je vais résumer tout ce que vous dites sur la grande époque en prenant quelques phrases. Époque médiocre, corrompue, agitée, haineuse, drapée dans ses grands mots et ses petites vertus. Époque atrocement dépourvue de poésie. Et alors le couperet qui tombe, page 392-393. Je ne vois rien de beau ni d'exaltant dans ces années qui furent d'abord affairistes, sectaires, bourgeoises, vicelardes, vous l'avez dit, racistes et irresponsables. Fin de citation. Pas de regrets quand même devant une telle charge ?
Bien sûr, j'ai des regrets. C'est l'époque, on peut dire, Valéry va venir, Gide va venir, la peinture moderne va naître. Évidemment, mais je ne fais pas un tableau historique. Je fais ce tableau-là comme réaction d'humeur, avec effectivement la partialité que j'assume totalement dans un roman et non pas dans un essai savant, par rapport à un héros qui est mon grand-père, qui me fascine et en même temps dont je me sens à la fois totalement l'héritier dans ce qu'il avait de plus admirable, dans son intégrité intellectuelle,
oui,
dans sa curiosité.
Oui, c'est ça, il ne cherchait ni le succès, ni l'argent.
Non, c'était un homme, c'était un honnête homme.
Il était curieux.
Qui était un curieux, et cette curiosité me fascine, et en même temps m'attriste. Et du coup, au fond, ce mélange de fascination et de ressentiment, à la fin du livre, après avoir donné objectivement, si je puis dire, vie à cet homme, je me...
Vous défoulez, quoi.
Défoule, vous l'avez dit.
Alors, l'affaire Dreyfus tient une place doublement importante dans votre livre, d'abord en soi, évidemment, parce que tout ce qu'elle révèle d'une époque, mais aussi du fait que votre grand-père, donc Georges Vitou, a écrit un livre tout à fait étonnant, « L'agonie d'Israël », où il défend des thèses pour le moins surprenantes quand même. Preuves zoologiques à l'appui.
Oui.
Vous pourriez nous dire ce que c'est que ça...
C'est un livre très curieux. Je ne sais pas s'il a écrit ce livre volontairement comme une réponse à Drumont. Je n'en sais rien.
Oui, parce que lui, après, il a été Dreyfusard.
Voilà,
c'est,
parfaitement.
Alors ça, c'est quand même...
Drumont écrit de la France juive, qui est un énorme succès de librairie et qui marque profondément l'idéologie de la France bourgeoise des années 1880. Mon grand-père, en 91, publie ce livre chez l'éditeur Albert Savine, qui sera aussi un éditeur de Drumont, qui s'appelle « L'agonie d'Israël ». En deux mots, quelle est sa thèse ? Sa thèse, c'est de dire, on est avant l'affaire Dreyfus, je le précise, sa thèse, c'est de dire, mais la race juive est condamnée à disparaître. Et il essaye de prouver scientifiquement, à sa manière, que les mariages entre juifs et non-juifs vont se multiplier, qu'il y a une perte du sentiment religieux et donc de l'identité culturelle des juifs. Il avance des thèses qui me paraissent un petit peu bizarres, parce que je ne vois pas par comment il les corrobore, que les femmes juives sont moins fécondes que les femmes ariennes, et que toutes ces raisons le poussent à conclure que les juifs, en tant que juifs, vont disparaître. Alors, il est vrai qu'historiquement, à l'époque, beaucoup de juifs pense que la solution, c'est l'assimilation totale. Mais ce qui est un peu gênant dans ce livre, c'est que inconsciemment, dans certains de ses arguments, dans certaines manières de parler de la race juive, il y a quand même une sorte de racisme un peu comme ça qui sourd de ce livre, même s'il se veut, encore une fois, rigoureux et scientifique. On voit quand même, quand on se veut scientifique, à quel point on peut se tromper dans les grandes largeurs, si je puis dire familièrement, puisque évidemment, l'histoire lui donne totalement tort. Et puis, d'ailleurs, il va y avoir l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus est intéressante parce que non seulement l'affaire Dreyfus va peut-être réveiller un sentiment de singularité juive, on peut dire de cette manière, je crois que Herz et le sionisme vient pour une part de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'assimilation parce qu'il y aura toujours un antisémitisme et que des gens comme Drumont avant entretenaient, mais que l'affaire Dreyfus a multiplié. Et mon grand-père, qui est encore une fois un homme qui est un autodidacte scientifique et qui n'est pas du tout un idéologue, qui n'est pas du tout comme Drumont un défenseur d'une France éternelle, chrétienne, la France des cathédrales, contre le pouvoir de l'argent, le pouvoir juif qui corrompt tout, pas du tout, il se fiche complètement, il est athée, il est non religieux, il serait plutôt de tendance spirit, curieux par les mouvements un peu francs-maçons, mais qui l'intéresse comme une sorte de curiosité de
secte. Les Rose-Croix et tout ça.
Les Rose-Croix et tout l'intéresse. En tout cas, il n'est pas du tout un mystique catholique. Et lui s'efforce de conjuguer les Rose-Croix, le spiritisme, le magnétisme, tout ce truc-là, avec la science. D'ailleurs, il écrit un livre qui s'appelle L'occultisme scientifique, où il essaie de montrer qu'on peut concilier...
C'est vraiment une époque.
Voilà, une époque. Et lui, au moment de l'affaire Dreyfus, je le sais par mon père qui m'en a beaucoup parlé, parce qu'il en parlait avec son père quand il était jeune, mon grand-père se pose la question, tout simplement, rationnellement, historiquement, Dreyfus est-il coupable ou non ? Et l'examen de l'affaire lui laisse à penser que Dreyfus est innocent et que, par conséquent, il faut être Dreyfusard pour défendre. Il est contre une injustice en faveur d'un désordre, donc la fameuse opposition. Et donc, il va se fâcher avec beaucoup de ses amis. Et je ne sais pas quels étaient les rapports avec Drummond, justement, quand il écrivait L'agonie d'Israël, pour lui demander des documentations. Et Drummond, très courtoisement, avait répondu à mon grand-père pour dire « Vous pourriez lire tel livre, tel livre, tel livre. » D'ailleurs, j'ai gardé les lettres et même des petites notes comme ça, je les reproduis en facsimilé dans mon roman. Donc, je pense que tous les rapports avec Drummond, pour autant qu'il en avait gardé, je ne crois pas, ont dû se rompre, évidemment, à ce moment-là.
À ce moment-là, oui. Sur l'affaire Dreyfus, vous rappelez deux choses qu'on a tendance à laisser un peu tomber aujourd'hui. D'abord que la distinction entre Dreyfusard et entre Dreyfusard ne correspondait pas du tout à l'opposition droite-gauche. C'était beaucoup plus complexe que ça. Parce que Drummond lui-même, vous le dites, avait des sympathies pour les communards, par exemple.
Oui, bien sûr. Je crois que l'affaire Dreyfus a été, et là je parlerai sous le contrôle des historiens, et j'essaye d'en rendre compte en créant des personnages, l'affaire Dreyfus a été un des moments pivots où on est passé d'un antisémitisme de gauche, si j'ose dire, qui était celui d'une partie du 19e siècle, les juifs c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est le capital, à un antisémitisme de droite. Il faut défendre l'État, la nation, la religion. Donc, il y a eu un glissement d'un antisémitisme, je dirais, de gauche. Il faut relire les pages assez belles, même si elles sont très critiquables par certains côtés de Bernanos qui a été très marqué par Drummond. Donc, il considérait un peu comme son maître, même si après, il est revenu sur ce qu'il avait écrit dans ses premiers livres. En effet, il y a ce côté bouillonnant chez Drummond qui dit qu'il est favorable. Il est contre tout, Drummond. De toute façon, il est contre les présidents, les régimes, les hommes politiques, les capitalistes, les opportunistes, les juifs, etc. Il rêve d'une France imaginaire qui n'a probablement jamais existé.
C'est d'abord et avant tout un pamphlétaire.
Voilà, c'est un pamphlétaire. Et donc, il est favorable, justement, à cette révolte libertaire et absolue qu'était la Commune. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Oui, mais si les communards ont été poussés par les Rothschild, qui correspond à une sorte d'idée complètement idiote. Et donc, en défendant les communards, il attaque un pouvoir juif imaginaire qui les pousse au massacre pour créer du désordre, pour s'enrichir. Quand même, on est dans la folie totale.
Alors, la deuxième chose que vous montrez très, très bien à travers des personnages romanesques, c'est comment, dans cette histoire, et finalement, il y a des tas de gens qui ne se sont pas du tout posés, comme l'a fait par contre votre grand-père, la question de la vérité, mais qui ont réagi d'abord et avant tout au nom des grands principes ou au nom des intérêts, parfois des tout petits intérêts. Et ça, vous le racontez très bien.
Je me suis amusé à développer dans ce livre, qui est à la fois un vagabondage romanesque et un peu une enquête objective, familiale, un personnage qui m'a beaucoup intéressé, qui était une femme qui jouait un rôle important dans la vie littéraire, la vie médiatique, comme on ne le disait pas à l'époque, de la France du 19e siècle, qui s'appelait Marie-Anne de Beauvais. Et Marie-Anne de Beauvais, elle est très intéressante parce qu'elle est justement à la rencontre de toutes ces contradictions. Marie-Anne de Beauvais est une fille d'un militaire de Lorraine, la Lorraine occupée par la Prusse, donc très nationaliste, grande famille de la noblesse, et qui est en même temps une femme émancipée, féministe, qui défend le droit des femmes à vivre, à faire tous les métiers du monde, à avoir même une liberté sexuelle assez grande.
D'ailleurs, elle ne porte pas le nom de son mari.
Non, elle garde ce nom Marie-Anne de Beauvais. Et cette femme se bagarre pour le féminisme. Elle écrit un livre qui est formidable. Je trouve qu'un éditeur serait bien avisé de le réimprimer aujourd'hui. Il s'appelle Confession d'une fille de 30 ans, qui est très amusant. Il y a une sorte de drôlerie, d'impertinence. Son héroïne, qui est un peu son double, dit « J'ai 30 ans, je ne suis pas mariée, j'ai le droit d'avoir des petits amis. » Cette oppression de la société qui devrait m'obliger à être ou marié ou retiré pratiquement à l'écart, eh ben non, j'ai des amis, je m'amuse et j'en ai rien à faire. Son côté lorrain, nationaliste, l'a fait rejoindre sans hésiter au nom des défenses du patriotisme, de l'armée. Il faut défendre les institutions comme l'armée contre quelqu'un qui les menace en quelque sorte, c'est le capitaine Dreyfus, parce que si l'armée l'a jugé coupable, il ne faut pas attaquer l'institut de l'armée. Donc elle est un mélange de, par certains côtés, de progressisme dans le féminisme en tout cas, et d'un autre côté, d'un conformisme accablant. Quand le colonel Henry est absolument convaincu d'avoir fait un faux, et se suicide, elle est de ceux qui veulent faire une souscription pour venir en aide à la veuve en disant « c'est un scandale, soit suicide ». Et cette femme a été très proche de mon grand-père. J'ai des lettres d'elle à mon grand-père qui montrent entre eux une assez grande familiarité. Dans mon livre, j'imagine qu'ils ont été amants, qu'elle était une sorte de maîtresse protectrice.
Protectrice, oui.
Je n'en suis pas certain. Très honnêtement, j'espère que les héritiers de Marie-Anne de Beauvais ne vont pas m'intenter un procès pour avoir attenté à la vertu de leur arrière-arrière-grand-mère.
Vous donnez d'elle une très très belle image.
Mais
c'est une très belle protectrice.
Oui, mais c'est une femme dont je sens à l'intimité des lettres. À un moment donné, elle lui dit à Georges Vitoux qui sera surpris de cet excès de moralité, son amie Marie-Anne, qui prouve quand même. Et curieusement, je ne trouve plus aucune lettre d'elle à mon grand-père après le mariage de mon grand-père. Donc tout ça me laisse supposer que cette intimité ne pouvait guère se prolonger après le mariage de mon grand-père. Mais cette femme, justement, est très intéressante parce que c'est une belle figure. Pourquoi elle était une belle figure? Parce que c'est une figure contradictoire. Vous savez, je me souviens toujours d'une phrase de Dostoïevski. La vérité d'un caractère, c'est la coexistence en chaque individu au même moment de sentiments contradictoires. Si on arrive à montrer qu'un personnage est animé de sentiments contradictoires, alors peut-être on commence à trouver une épaisseur à un personnage. Et Marie-Anne de Beauvais est un personnage contradictoire, progressiste,
très touchant,
et conservateur,
très touchant.
Très touchant,
ce que vous racontez d'elle lorsqu'elle a 40 ans et un peu plus, et tout à coup, cette femme qui a quand même vécu aussi par son corps et pour son corps, tout à coup, elle se rend compte qu'elle vieillit.
Elle abandonne son jeune amant et en même temps, j'imagine, comme elle est cette maîtresse protectrice et bienfaisante en quelque sorte pour mon grand-père, j'imagine que c'est elle qui le pousse à faire ses études de médecine, à cesser de vagabonder dans les marges de la science, de l'alchimie, des Rose-Croix, et lui dit non, pas seulement, mais
devenir adulte.
Maintenant, si tu t'intéresses à la science, ben vas-y, cesse de écrire dans la revue médicale des petits articles de vulgarisation, deviens médecin. Parce que c'était un pari extrêmement rare pour mon grand-père. Imaginez, à 39 ans, il commence ses études de médecine après, je dirais, 20 ans de travail, d'activité professionnelle. Et il va réussir, il va devenir docteur en médecine en 1905. Et il se marie à ce moment-là. Et il devient bibliophile, médecin et toujours journaliste d'ailleurs, parce qu'il y a toujours ce goût, cette encyclopédique des choses.
Alors, sur le plan de la vie privée, donc, ce roman est passionnant. Il est violent d'ailleurs. Il est très très violent parce qu'il y a des pages extrêmement fortes autour de ce que vous appelez les filles de joie. Quand vous opposez la joie à la sexualité de l'époque, c'est très profond et très violent.
Écoutez, quand on écrit un livre, c'est pour être heureux. Je veux dire par là qu'on écrit un livre pour mieux se comprendre, pour aller au bout d'une certaine forme de recherche. Et mieux se comprendre, c'est aussi mieux comprendre d'où l'on vient. Mais c'est aussi parfois pour se libérer.
Et là, il y avait un poids terrible. Alors,
et
parce
d'un
que...
seul coup, je ne sais pas. Mais non, mais c'est venu comme ça. D'un seul coup, j'écris « fille de joie ». Et je me dis, mais est-ce que le mot est bien choisi? La joie, c'est quand même quelque chose de magnifique, le mot joie. On pourrait dire, et ce serait peut-être une faiblesse, je me suis fait plaisir. Mais non, il y a peut-être plus que ça. J'ai voulu, comme ça, développer le bonheur, qui est la joie, le plaisir, et trouver que ce mot « fille de joie » était assez peu convenable pour désigner...
Et... Oui, mais comment vous opposez totalement la sexualité de l'époque à la notion de joie?
Je pense que le plaisir, c'est une chose. La joie, pour moi, est quelque chose de mystique. Jésus, que ma joie demeure. C'est peut-être mon côté catholique qui ressort, c'est possible.
Parce que vous parlez de Jésus, et effectivement, il y a un très très beau passage sur Marie-Madeleine.
Oui.
Justement, les notions de plaisir et de joie à travers Marie-Madeleine.
Et je pense que les malheureuses prostituées étaient par contrat chargées de donner du plaisir dans une période de rigorisme bourgeois, de sexualité un peu réprimée, c'était un lieu comme ça, mais que le mot joie au sens radieux du terme devait être assez étranger à ces lieux et à ces malheureuses dames qui étaient chargées de faire jaillir littéralement le plaisir des hommes. Mais que le
c'était
mot
de l'abattage,
joie,
au fond. C'était de l'abattage.
Il y avait toutes les formes de prostitution, entre les maisons de luxe et les maisons d'abattage absolument immondes et sordides. Mais je trouve que le mot joie ne correspond pas. En revanche, un peu plus loin dans le livre, je reprends un terme habituel qu'on appelle les filles légères. Et là, je fais au contraire une apologie de la légèreté, en disant, mais c'est quoi les filles légères? Mais c'est un rêve, la légèreté. C'est la lourdeur qui est un péché.
Vous avez une formule, je vais la retrouver. La fille en question s'appelle Madeleine. Et vous dites, elle se tient sur l'arête du présent.
Voilà. Donc, elle se tient sous l'arête du présent. Elle est là, cette femme que j'ai inventée, justement à cause de Madeleine. Madeleine, la pécheresse, Madeleine des Évangiles, la Madeleine de l'église de la Madeleine, à côté du grand hôtel à Nelson. Donc tout ça, c'est un petit jeu d'association.
Oui, mais ça vous permet de faire l'apologie d'une forme de légèreté.
Oui.
Quand vous dites de Madeleine, la vie lui était déguisement, des déguisements qui la protégeaient des intempéries.
Oui, oui. Je
Il y
suis
a l'idée
très...
d'une fragilité très grande.
Voilà, c'est le genre de personne qui vit sur l'arête du présent, qui sont à la fois fragiles, qui sont touchants, qui sont une sorte d'innocence, puisque le péché, c'est quelque chose par rapport à quelque chose d'autre, et qui vivent comme ça dans une sorte de bonheur de l'instantané, d'élégance de l'instantané. Et je suis tombé un peu amoureux de cette femme que j'ai inventée.
Nous aussi, d'ailleurs, nous aussi. Mais il y a un moment où vous le dites, où le temps remet les choses en place. Vous avez cette phrase, « Il arrive un temps où la parole reprend le pas sur la musique ». Autrement dit, la ça, vie de ces femmes-là n'était pas très drôle, en fait.
Bien sûr. Mais ça, c'est une phrase comme ça. À mon avis, je ne l'aurais pas écrite. Mais ça, c'est une parenthèse.
Oui,
si
oui.
Je n'avais pas eu tant d'intimité pendant des années avec Céline. car chez Céline, il y a non seulement cette obsession de la mort.
Je ne voulais pas vous poser de questions sur Céline.
Non, non, mais cette obsession de la lourdeur. Mais chez Céline, la parole, c'est la lourdeur et c'est le mensonge. Et le silence et la légèreté. Et ce n'est pas par hasard si Céline, dans son panthéon, idéalise deux personnes vivantes, les animaux, ou les chats en particulier, et les danseuses, et la danse. Tout ce qui échappe à la pesanteur, tout ce qui est léger et tout ce qui est taciturne. Dès l'instant où l'homme parle, il est médiocre, il est vulgaire, il est argileux, il se cache la vie, il est lourd, l'homme est lourd. Et quand il y a un peu de silence, il y a un peu de légèreté. Et ça, cette vision célinienne des choses m'a beaucoup marqué, moi qui ai quand même, par les hasards de la vie, d'une thèse de doctorat, puis de plusieurs ouvrages, a été amené à étudier longtemps et à vivre dans une assez grande intimité, difficile, pour les raisons que vous devinez, avec Céline, qui est une phrase de moi, ce n'est pas une phrase de Céline, bien entendu. Mais je ne suis pas sûr que je l'aurais écrite si je n'avais pas été marqué par Céline.
Alors, évidemment, dans cette proximité avec Céline, certains ont voulu voir ce qui n'est pas. Pour vous, Céline, ce qu'il y a de plus important dans votre attachement à Céline, d'abord, c'est son évidemment génie d'écrivain, mais est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout que sa révolte foncière, quand c'était un homme de révolte enfin.
Pourquoi je me suis tant passionné pour Céline, très brièvement. Au début, j'ai fait une thèse de doctorat sur Céline parce que j'étais en 68 à Nanterre et qu'il n'y avait rien sur Céline. Aucun travail universitaire n'avait été fait sur Céline. C'était 7 ans après sa mort, en plus dans un lieu un peu turbulent. Imaginez mars 68 à Nanterre. Et je décide de faire une thèse sur un terrain totalement vierge. J'avais lu Voyage au bout de la nuit, comme tout le monde, et j'avais été très marqué par ce livre. Il y a très peu de livres, hein, si vous y réfléchissez, où on peut dire qu'on est marqué, qu'il y a un avant et un après. On est changé après la lecture. Il y a des tas de chefs-d'œuvre.
Nos livres fondateurs. Quoi.
Voilà, il y a des tas de livres qui sont passionnants, formidables, mais on peut dire qu'on est à peu près le même après qu'avant. On peut s'exalter sur les Trois Mousquetaires. On n'a pas une révolution spirituelle après avoir lu les Trois Mousquetaires. On a son imaginaire, je dirais, ensoleillé, mais pas plus. J'avais été marqué par Un Voyage au bout de la nuit. Et puis j'ai commencé à travailler sur Céline. Et à mesure que je travaillais sur Céline, j'ai découvert peu à peu un homme, d'abord non seulement un des plus grands stylistes, un des écrivains les plus prodigieux, mais aussi avec toutes ces terrifiantes zones d'ombre. Évidemment, je pense à l'antisémitisme de Céline des années 30, de la fin des années 30. Un homme qui était au fond, un des témoins du XXe siècle, qui avait près tout connu, tout vécu, était même, hélas, par l'antisémitisme, l'un des acteurs des idéologies les plus terribles du XXe siècle, et que comprendre Céline, c'était aussi essayer de mieux comprendre le siècle qui était le mien.
Parce qu'il y avait beaucoup de paradoxes, parce que finalement, c'était un homme hanté par le mal.
Céline est l'homme de toutes les contradictions. Céline est l'écrivain qui, par certains côtés, par ses pamphlets antisémites, a assemblé et a réellement poussé les cris de haine les plus violents. Mais je crois qu'il n'y a pas d'écrivain plus compassionnel au sens strict, souffrir avec, que le docteur Destouches, Céline comme écrivain nom de plume. C'est l'homme passéiste et c'est l'homme novateur, c'est l'homme précieux et l'homme réaliste. On n'en finirait pas de définir toutes les contradictions de Céline.
Alors revenons et terminons sur cette question de la place de la femme dans la société de la Belle Époque. Vous insistez, vous, sur l'extraordinaire inégalité entre les hommes et les femmes. Et puisque vous êtes académicien et que nous sommes ici à l'Institut, prenons un mot et vous nous en parlez comme on n'en a jamais parlé, c'est la garçonnière.
Ah oui ? Bah oui, parce que au fond, je me suis dit, c'est
et
très
curieux. Et à partir
curieux.
De là, vous...
Bah oui, parce que je me dis, maintenant, les garçonnières, c'est très bien. Les hommes qui ont des garçonnières, c'est très bien, où ils peuvent rencontrer leurs petites amies, les petites danseuses de l'opéra, les petites domestiques, les petites grisettes, les petites cousettes, c'est très bien. Mais après tout, les femmes, pourquoi il n'y a pas de mots pour dire les endroits où des femmes mariées pourraient retrouver? Pourquoi c'est toujours la garçonnière où le garçon reçoit les filles? Et c'est un mot parmi d'autres qui m'amuse et qui prouve toujours cette inégalité terrible, et même dans les jugements sexuels, et dont Marianne de Beauvais, dans Confession d'une fille de 30 ans, entreprend de dénoncer l'injustice.
Alors, ce livre, c'est donc une recherche, au fond, du lien qui aurait pu exister affectivement avec votre grand-père, mais il y a aussi beaucoup plus que ça dans la relation, des rapports qu'il peut y avoir dans une famille. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est quand vous nous expliquez comment très souvent les êtres dans leur propre famille ne jouent pas la carte de la vérité, mais cherchent d'abord avant tout à survivre, quitte à tricher, ou au moins à mentir par omission auprès des leurs. Et vous insistez beaucoup là-dessus. Et vous parlez d'une sagesse de survie, en l'occurrence. Mais le résultat de ça, n'est-ce pas pourtant le fait que les gens passent les uns à côté des autres, parfois sans se comprendre, sans se connaître, alors qu'ils auraient dû et pu le faire, comme c'est le cas avec votre père, par exemple.
Oui.
Donc, vous pensez vraiment que même dans une famille, il y a cette espèce de mensonge quasi permanent au nom d'une sagesse de survie ?
Je ne sais pas si j'emploierais le mot mensonge. Je n'ai pas eu le sentiment, pour ma part, vraiment de mensonge. Je ne suis pas sûr que
non,
je parle
de mensonge. Non, ce n'est pas ce que
mensonge.
Vous avez employé. C'est pas, non, vous ne parlez pas de mensonge,
non.
Mais vous
mais
parlez
de silence,
au moins d'omission.
Voilà, d'omission, de silence. En effet. En effet.
Et au nom d'une sagesse de survie. Hein,
voilà.
C'est ça qui est...
Je pense deux choses. C'est qu'en règle générale, d'une manière... Et après, je parlerai de mon cas particulier qui est beaucoup plus brûlant que
passionnant,
cela.
Passionnant.
Mais en règle générale, je crois que quand ses parents meurent, il y a toujours non seulement le deuil, évidemment, d'une absence, mais il y a toujours un regret torturant chez les enfants de toutes les conversations qu'ils auraient dû avoir, de toutes les confessions qu'ils auraient pu se livrer et qu'ils n'ont pas eues. Donc je pense que la disparition d'un être cher et des parents, plus précisément, c'est toujours le regret de tout ce qu'on n'a pas dit, qu'on aurait dû dire. Ça, je crois que c'est une constante.
La nostalgie de ce qu'on n'a pas vécu.
De ce qu'on n'a pas échangé, la pudeur. Et surtout dans ces familles, peut-être aujourd'hui, je n'en sais rien, y a-t-il plus de liberté, de côté copain entre les parents et les enfants. Mais dans la génération qui était la mienne, dans le milieu social, disons, de la bourgeoisie moyenne qui était la mienne, il y avait une grande pudeur et une grande distance des parents aux enfants. Et en particulier, puisque le livre partait de ces photos pornographiques, en particulier sur le domaine de la sexualité.
Oui,
on
oui.
n'en parlait pas.
Voilà.
Donc c'était le silence, le non-dit. Et même par certains côtés, mon père était exceptionnellement, comment dirais-je, ouvert, puisque sans me parler jamais de sexualité, me donner aucune initiation sur ces non-dits, ces silences qui sont quand même torturants pour un adolescent. Un jour, je lui ai dit « Papa, j'aimerais bien lire Playboy », parce qu'il y avait des filles superbes qu'on dépliait en couleurs. C'était assez pudique à l'époque, hein. On voyait des seins, des fesses, mais guère plus. Bon. Et mon père a dit « Ah bon ?» Je lui ai dit « Oui, tu sais, j'apprendrai l'américain avec ça », parce que c'était naturellement l'édition américaine, il n'y avait pas d'édition française. Et mon père m'a abonné. Il m'a donné l'argent pour m'abonner à Playboy. Et ce qui n'était pas idiot, parce que non seulement, effectivement, je fantasmais, comme tous les gamins de 14, 15 ans, 16 ans, sur les Playmates of the Month, hein, mais... Comme c'était un journal copieux, ben je lisais quand même un peu. Et je lisais des nouvelles de Ray Bradbury,
oui,
des grands écrivains.
Et des grands entretiens.
Nabokov,
plus. Et des
Nabokov,
grands entretiens.
D'autres. Bon,
prétexte.
Donc mon père était par son côté assez ouvert. Mais qu'est-ce qui était le silence de mon père ? Ben, il est simple. Parce qu'au fond, ce livre, Grand Hôtel Nelson, est le troisième volet d'une trilogie familiale. Et c'est le troisième volet qui clôt, je dirais, une démarche familiale qui avait commencé avec un livre qui s'appelait L'ami de mon père, qui s'était poursuivi avec un livre qui s'appelait Clarisse, qui était en fond le côté de ma grand-mère et de cette femme qui avait joué un rôle important auprès d'elle, qui s'appelait Clarisse. Et là, je clôt cette trilogie avec Grand Hôtel Nelson, qui est mon grand-père. Au fond, tous ceux à qui je suis redevable peut-être de ce que je suis dans l'éducation, dans le caractère, biologiquement aussi, bien sûr. Et mon père, pour faire bref, était un homme qui était journaliste au Petit Parisien. Il était devenu journaliste en 1933, à peu près.
Écrivain aussi. Hein.
Écrivain, il avait écrit des romans policiers, des trucs. Mais enfin, c'est surtout un écrivain malheureusement pas très reconnu et souvent peu publié, mais professionnellement journaliste dans un journal qui était un grand journal populaire français, qui s'appelle Le Petit Parisien, qui avait beaucoup de succès, et qui, au moment de la guerre, a continué à apparaître sous l'occupation, donc sous le contrôle de la censure allemande. Et mon père était pétainiste, on peut dire, comme l'écrasante majorité des Français. Bon. Mais ça se voyait plus, puisqu'il était journaliste, et qu'il a accepté, ce qui était peut-être son tort, enfin, je peux avoir un jugement, pas personnel contre mon père, mais de l'époque. En tout cas, il a continué à travailler dans ce journal. Il avait deux enfants, bientôt il en aurait trois avec ma naissance à la fin de l'occupation. Et il a continué à travailler dans ce journal. Et non seulement ça, mais même il a fait un jour un article dans Je suis partout, qui est un journal beaucoup plus violent, dur,
ouais.
Ouvertement fasciste.
Braziac et tout
voilà.
Ça.
Et il a fait un reportage parce qu'il avait fait pour Le Petit Parisien, qu'il a repris en le développant pour Je suis partout. C'était une correspondance sur le front de guerre en Roumanie. Et mon père était en plus totalement anticommuniste, catholique, anticommuniste. Et il avait écrit une phrase qui était la phrase qui l'a fait condamner, d'ailleurs, parce que pour le reste, il n'y avait rien à lui reprocher particulièrement, sinon le fait d'écrire dans un organe de presse collaborateur. Il a écrit en parlant du front de l'Est « Je souhaite la défaite des bolcheviks ». C'est-à-dire, autrement dit, je souhaite la victoire des troupes de l'Axe, des troupes allemandes, parce que le déferlement communiste sur l'Europe l'effrayait. Et mon père est donc arrêté en septembre 1944, quelques semaines après ma naissance. Il est emprisonné, jugé, et il va faire 3 ans et demi de prison. Et curieusement, ces années de prison vont le mettre en contact avec des gens d'ailleurs beaucoup plus violents que lui dans la collaboration, les gens de Je suis partout, Rebattet, les gens comme ça, avec qui il va se lier de cette amitié qui se noue forcément entre détenus. Et mon père, au fond, ne parlait pas de cette période. Il ne revendiquait pas des positions pétainistes après la guerre, évidemment que non, l'histoire lui avait donné tort. Mais pour lui, ces épreuves qui avaient été réelles, même si évidemment à l'époque, pendant la guerre et l'occupation et la libération, d'autres gens avaient ô combien souffert plus que lui, c'était un silence de pudeur. Il ne parlait pas de ces années de collaboration.
Mais vous, cette condamnation...
Et donc, cette condamnation, moi je la vivais...
Vous l'avez vécu comme un poids
Non. Alors un jour, justement, j'avais un débat, il y a un an ou deux... avec mon ami Dominique Fernandez et Dominique Jamais, dont les parcours sont un peu différents, mais dont les parents avaient été aussi des intellectuels de la collaboration. Et Dominique Jamais, en particulier, vivait comme une sorte de faute, de poids, les engagements de son père. Franchement, non. Vous voyez, je ne me rendais pas bien compte à l'époque. Je savais que mon père avait été en prison pour des raisons politiques, que ce n'était probablement pas bien. Il avait eu tort de prendre position pour le maréchal Pétain. Voilà. Mais j'étais sûr de la bonne foi de mon père. Et dans ma famille, on n'en parlait pas. À l'école, on n'en parlait pas. Ce n'était pas un sujet de discussion. Donc, je n'ai jamais senti, ni dans la société autour de moi, parmi mes proches, mes copains de classe, ni même pour moi, je n'avais pas ce sentiment biblique que du péché des pères retombe sur les enfants.
Et vous dites...
Donc, je n'avais pas ce sentiment-là. Mais en même temps, je ne sais pas si je n'osais pas en parler à mon père, curieusement, et mon père ne m'en parlait pas. Voilà, on revient sur cette question initiale. L'un des regrets les plus douloureux que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de mon père qui est mort en 1995, c'est de dire « j'aurais dû lui en parler ». J'aurais dû lui parler de ses conditions de captivité, comment était la vie à Clairvaux, où il a été en prison après son jugement. Je n'en parlais pas. C'était une sorte de silence, de respect, de pudeur. Et si j'ai écrit le premier de mes trois romans autobiographiques, en particulier c'est L'ami de mon père, c'était justement pour, dans une sorte de rattrapage, j'ai inventé dans ce livre L'ami de mon père un homme qui avait existé pour de vrai, d'ailleurs, qui s'appelait Christian de Lamazière, que j'avais connu vaguement quand mon père...
Le rêveur casqué.
Qui avait écrit ce livre, ce que vous avez raison, ce livre de souvenirs, Le rêveur casqué, qui a eu beaucoup de succès chez Lafon après son intervention remarquée dans le film d'Ophuls, Le chagrin et la pitié. J'ai imaginé, mais c'était complètement imaginaire, que moi, à 16 ans, je passe une soirée avec ce héros qui était dans la réalité Christian de Lamazière, mais ce n'était pas vrai, c'était une fiction. Et je lui demande de me parler de mon père, il me parle de mon père en prison. Et c'était une sorte de rattrapage, comme si je voulais enfin que quelqu'un me raconte ça. Et j'avais imaginé dans un roman que c'était l'ami de mon père qui me parlait de ça. Et d'une certaine manière, quand mon père me disait, et j'en reviens sur le début de notre entretien, « tu te serais bien entendu avec ton grand-père », c'est que mon grand-père était non religieux, mon père était religieux. Mon grand-père était curieux de tout, mon père était plus renfermé. Mon grand-père avait publié plein de livres sur plein de sujets. Il y avait le sentiment que moi, bien qu'élevé dans la religion catholique, j'avais pris mes distances avec la religion catholique. Moi qui écrivais dans des journaux plutôt de gauche, enfin, parlez vite, l'Observateur, j'avais été autrefois dans une revue de cinéma qui s'appelait Positif. Donc, il y avait, disons, une sensibilité de gauche, non religieuse, un peu curieux du cinéma, de tout. Il me disait, au fond, toi, tu te serais bien entendu avec ton grand-père que moi, au fond, je n'ai pas connu. Parce que lui aussi avait ce regret de ces conversations inabouties ou inaccomplies ou même jamais jouées entre son père.
Alors, ce que ce livre a d'extraordinaire, c'est que vous nous dites, mais non, ce n'est pas de mon grand-père dont je me sens proche, c'est de mon père.
Oui.
C'est extraordinaire, ça. Tout a... De dire ça, là,
de
maintenant.
De dire ça à la fin du livre,
à la fin du livre, tu vois. On va passer des mois et des mois à chercher un grand-père.
Vous savez, je ne dirais pas que c'est la même chose. Je ne me permettrais pas de faire une comparaison écrasante comme ça. Mais vous savez, à la fin du côté de chez Swann, dit, en parlant d'Odette, et dire que j'ai passé tant de temps, tant de ma vie, à aimer une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Et il s'est torturé toute sa vie en se rendant compte à la fin qu'Odette n'était pas faite pour lui. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Mais je ne dirais pas... Je dirais que mon jugement... À la fin de cette recherche, c'est une recherche en un sens, Grand Hôtel Nelson, mon jugement à la fin de ce livre est en effet nuancé. Je dois beaucoup à mon grand-père, sûrement, je dois beaucoup. D'abord, je le dois à mon grand-père, le fait d'habiter toujours là où il a choisi d'habiter, qui est d'Anjou, dans ce lieu qui est...
Ce qui marque votre vie.
Ce qui marque votre vie, et même je sens les fantômes qui sont autour de moi. Les livres de mon grand-père sont ceux que j'ai connus quand j'étais enfant, qui sont encore là, et qui ont nourri ma culture. Curieusement, j'ai été nourri par les livres de mon grand-père quand j'avais 16-17 ans. Je les prenais dans la bibliothèque. Ce n'est pas les livres de mon père que je lisais, c'est les livres de mon grand-père, des auteurs parfois totalement oubliés. Si je vous cite les noms, personne ne sait plus qui est Édouard Estonnier ou René Boilève ou Claude Farrère, encore à la rigueur. Ou Élémir Bourges, par exemple, qui était un auteur formidable. Bon, j'étais nourri, Henri Drégnier, bien sûr, maintenant qui est un peu plus connu. Bon, j'étais nourri par cet imaginaire. Mon grand-père m'a passionné, mais au fond, je dis oui, le côté peut-être religieux de mon père, en vieillissant, je sens que profondément, culturellement, je suis catholique. Je le dis, même si c'est presque provocateur et là, je dois le dire, mais je me sens profondément de culture catholique. Et je me sens, sur ce plan-là, beaucoup plus proche de mon père et de ses interrogations spirituelles que de l'athéisme béat de mon grand-père. Cette illusion un peu stupide que la science répondra à toutes les questions qu'avait mon grand-père, je m'en sens loin. Alors, bien sûr, il y a le côté politique. Mais finalement, mon père... que j'ai eu la chance de connaître, évidemment. Même ces égarements, même ces enthousiasmes, même ces aveuglements m'ont apporté quelque chose.
Vous dites, ils m'ont apporté au moins une chose, c'est la prudence.
Voilà. quand je voyais mon père, par exemple, qui, encore une fois, qui ne parlait pas de la vie, mais qui avait gardé des haines incroyables. Si on voulait faire jaillir le diable de la boîte, il fallait prononcer le mot De Gaulle. Alors, à De Gaulle, il devenait fou. Imposteur, cette surveille. Et il devenait fou. Et le mot communiste, n'en parlons même pas. Donc, il y avait comme ça une sorte de... C'est mon père qui était un passionné de culture, qui aimait lire, qui aimait le cinéma, avec qui j'ai eu pas mal d'échanges quand même culturels. Mais en même temps, cette manière de charger le domaine politique d'une intensité passionnelle, en plus en se trompant à chaque fois, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est trompé sur toute la ligne, c'est mon père. Se tromper pendant la guerre, se tromper la libération, de l'Algérie, il croyait que la France gardait ses colonies, il était donc encore plus hostile à De Gaulle quand De Gaulle, à ses yeux, bradait l'Algérie. Donc tous les combats d'arrière-garde, on peut discuter de savoir si De Gaulle a bien géré l'indépendance algérienne, c'est un grand problème. J'en ai souvent parlé d'ailleurs ici même avec Pierre Messmer. Mais mon père s'est trompé partout. Et justement, je dirais que toutes les erreurs de mon père m'ont appris un certain nombre de prudence. Et puis m'ont appris aussi une chose, où je me sens, sur ce plan-là, très à l'écart de la plupart de mes amis et contemporains. C'est que le regard que nous avons, mes amis et moi, ou ma génération et moi, comme les générations après, sur la guerre, sur l'occupation, sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur la Shoah, est à peu près le même. Mais, précisément en observant mon père, j'ai appris à être à la fois le plus lucide et le plus critique possible sur des périodes historiques tragiques comme celles que mes parents ont vécues. Mais moi, je ne les ai pas vécues, ces périodes. Alors, je ne parle pas des salauds. Les salauds objectifs, les délateurs, les racistes, les origines collabos, du marché noir, les collabos au sens le plus atroce du terme. Mais les gens comme mon père qui ont été pétainistes de bonne foi, je me dis, ils ont eu tort, ils sont trompés, mais si j'avais été à leur place. Et moi, j'ai une certaine répugnance, et je l'avoue, à juger de manière péremptoire, adossé à la bonne conscience du présent et de ce que l'on sait, des gens qui étaient dans le nez, si je puis dire, dans le guidon, comme on dit dans une métaphore sportive. Et donc, je suis toujours un peu mal à l'aise quand des gens de ma génération, et a fortiori des générations qui ont suivi, qui n'ont donc pas été des acteurs de ces périodes, se permettent à l'emporte-pièce de traiter de salopards, d'ignobles, de vendus, bons à être fusillés, la plupart des acteurs de cette période.
Ça renvoie à Marcel Aimé à la traversée de Paris.
Oui, ou alors, récemment, je lisais un livre admirable qui a été réimprimé avec une remarquable préface de Bernard de Fallois, qui était le livre d'Emmanuel Berle sur la fin de la Troisième République. Et Berle, qui a été à la fois le témoin et l'acteur de cette période ô combien atroce et
la
tragique.
La terre, elle ne ment pas, c'est lui.
Voilà, ça. La terre ne ment pas et je hais ces mensonges qui vous ont fait. Voyez, attendez, ces deux phrases de Pétain. Dans mon idée, je crois que c'est des phrases qu'il avait écrites pour Pétain sous Vichy. Et pas du tout. C'est des phrases qu'il a écrites quand Pétain a été nommé chef du gouvernement de la Troisième République à Bordeaux. C'est pas du tout Vichy.
Oui,
et voyez, et
ça, on ne le sait pas.
Et on se dit, tiens, Berle, comment ce grand humaniste juif qui ose écrire pour Pétain à Vichy. D'abord, Berle n'a jamais rencontré Pétain et il l'a écrit au moment où Pétain est nommé chef du gouvernement légal de la Troisième République. Et il regrettait d'ailleurs ces phrases. En tout cas, il en regrettait une, je hais ces mensonges avec le pluriel globalisant. Mais Berle, dans ce livre qu'il écrit en 68, est exactement ce rapport qui me semble passionnant de distance avec l'événement qui lui permet d'avoir une synthèse et en même temps de proximité avec les individus pour dire mais qu'est-ce qu'ils pensaient à l'époque, qu'est-ce qu'on savait à l'époque. Et ça, ça me paraît très passionnant. Et c'est pour ça que je suis extrêmement peut-être blessé parce que mon père a été un acteur et incidemment une victime relativement peu blessée quand même de cette période par rapport au tragique de l'histoire, hein, évidemment, la résistance, les déportations et tout, c'est rien. Je suis toujours un peu écorché vif sur les gens qui jugent péremptoirement les acteurs de cette période. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être catégorique sur les idées ou les opinions qu'ils défendaient, évidemment.
Dans cet ouvrage, on comprend aussi que vous avez les livres dans les gènes, parce que là, on vient de parler de votre grand-père, on a parlé de votre père, mais il y a votre arrière-grand-père qui déjà était libraire, lui.
Oui.
Et en plus, vous épousez une libraire, et pas n'importe laquelle, celle qui tenait, ceux qui ont eu 20 ans à notre génération le savent, une merveilleuse toute petite, une librairie microscopique dans l'île Saint-Louis.
Voilà.
Et elle vous a ouvert des horizons littéraires merveilleux. Elle vous
oui.
a fait découvrir des tas de gens.
Ah bah parfaitement. Oui, mon grand-père d'abord. Il se trouve que c'est assez rigolo parce que je suis un fils de vieux, de fils de vieux, de fils de vieux. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père, ce qui n'est pas si loin, parmi les gens qui nous écoutent, je suis sûr que beaucoup de ces gens-là ont leur arrière-grand-père toujours vivant, et je l'espère pour eux. Mon arrière-grand-père est né sous Napoléon Ier. Mon arrière-grand-père est né en 1812. Il était libraire sous le Second Empire. Il a mis au monde mon grand-père en 61, donc il avait plus de 50 ans. Mon grand-père s'est marié très tardivement. Il a eu son fils en 1908, donc à pratiquement 50 ans aussi. Et moi, mon grand-père avait 40 ans quand je suis né. On va très loin. Et j'avais en effet un grand-père qui était libraire à Abbeville. Et j'ai encore son parchemin de privilège de libraire à Abbeville. Et en effet, puisque vous le dites, je peux le dire que j'ai connu une librairie et dans l'île Saint-Louis, le quartier où je suis né. Et j'étais très impressionné parce que moi, j'étais un matheux de formation. Je n'étais pas du tout un littéraire. J'ai fait Mathélène, préparé Mathsup. Et c'est un peu par hasard que je suis venu au livre et au cinéma. Et je voyais cette librairie très intello, avec Tel Quel en vitrine. Et je me disais que la libraire avait écrit des articles dans Tel Quel. Alors, vous savez, moi, j'ouvrais Tel Quel, je ne comprenais rien. Et je suis rentré un jour très timidement dans cette librairie où un chat magnifique trônait dans la vitrine et se chauffait à la chaleur des projecteurs sur des livres de Maurice Blanchot ou de Michel Léris. Et quand j'ai connu cette libraire, qui est devenue une amie proche et avec qui j'ai jamais cessé de vivre, c'était en 1963 à peu près, j'avais 19 ans. On peut dire que moi qui avais une boulimie de lecture, mais qui disait n'importe quoi. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de livres de la génération de mon grand-père, des écrivains oubliés. Et d'un seul coup, grâce à cette femme, j'ai découvert la littérature moderne. Léris, Blanchot, Beckett. Et surtout, j'ai eu une passion qui m'a marqué pendant des années de ma vie. J'ai failli faire un test de doctorat sur lui, puis j'ai arrêté et j'ai fait Joyce. Mais avant, j'ai fait Céline, mais c'était James Joyce. Et on est partis tous les deux un jour en Irlande, sur un pèlerinage joycien.
Sur les belles sources d'une histoire d'amour. Nous évoquions le quai d'Anjou, cet appartement superbe, je crois que c'est 5 mètres de plafond en plus, non ?
Oui, 5 mètres de plafond.
Est-ce qu'on peut dire que quand vous y êtes, vous vous sentez un peu protégé du monde ? Et que finalement, que le principe d'insularité pour vous joue moins physiquement, mais géographiquement, que socialement et culturellement quand vous êtes là ?
Je crois qu'il y a un peu de tout. En effet, vivre dans un lieu que l'on n'a jamais quitté de sa vie. Jamais quitté de sa vie. Ma femme, elle a fait 100 mètres de sa naissance à aujourd'hui. C'était aussi une insulaire, une ludovisienne, une habitante de l'île Saint-Louis, mais elle a fait quand même 150 mètres ou 130 mètres entre son lieu où elle vivait et aujourd'hui, ce qui me paraît le comble de l'aventure. J'ai ce sentiment contradictoire, à la fois d'immobilité. Vous savez, Proust disait, les livres sont les produits de la solitude et les enfants du silence. Et en effet, dans cet appartement de l'île Saint-Louis, que j'ai le privilège exorbitant d'habiter, puisque ma famille l'habite depuis 3 générations, donc, j'ai un sentiment de protection, de solitude et de silence, et en même temps du temps qui s'arrête. Dans l'île Saint-Louis, qui est déjà un quartier un peu immobile, qui a été créé au XVIIe siècle, qui n'a jamais bougé pratiquement depuis, j'ai l'impression d'être dans la disposition idéale de l'écrivain. C'est-à-dire un peu à l'écart des bruits de la ville, dans une insularité géographique évidente. Un quartier qui ne bouge pas dans ses traits de caractère, il n'y a pas eu d'immeubles, de construction et tout. Et en même temps, c'est ça qui est le paradoxe, de mon bureau, la Seine et le continent en face, le monde qui bouge autour de soi. C'est un peu presque, je dirais, comme l'Académie, toutes choses égales. Un point fixe qui ne bouge pas, l'Académie qui a les mêmes statuts depuis 1635, je parle de l'Académie française. Et en même temps, dans ce lieu de totale immobilité, le meilleur belvédère pour observer le monde qui bouge.
Et dans un esprit de tolérance étonnant aussi,
oui,
entre vous.
Bien sûr.
Hein, c'est tout à fait
bien
étonnant.
Sûr, ça, bien c'est... sûr, bien sûr. Dans l'Académie, c'est évident. Et je dirais, d'une certaine manière, j'ai un peu ce sentiment-là en continuant d'habiter le quai d'Anjou. Ce sentiment de repli, de silence, de solitude, de protection dans un cadre immuable avec ses boiseries du XVIIIe siècle, ce parquet Versailles, une sorte de grands fantômes qui sont là. Il y a Chopin qui est tout près, il y a Voltaire, il y a tous ces gens qui ont habité l'hôtel Lambert ou sa continuité où j'habite. Et en même temps, le spectacle du monde, quand même, que j'ai devant mes fenêtres.
Ouais, c'est quand même une chance extraordinaire. Alors, quand on vous voit, quand on vous lit, on peut penser qu'il y a un art de vivre à la Frédéric Vitoux et que c'est un art de vivre heureux. Et pourtant, page 392 de votre roman, on trouve cette phrase étonnante. Vous dites « Comme mon père, j'ai besoin de consolation ». De quelle consolation voulez-vous parler, si ce n'est pas trop intime ?
Je crois profondément que si l'on écrit, et en particulier si l'on écrit des fictions ou des fictions nées de l'imaginaire familial. Autrement dit, si l'on choisit précisément ce que j'évoquais à l'instant, de se replier dans la solitude et les silences pour inventer des mondes imaginaires, c'est peut-être qu'on n'est pas totalement heureux dans le monde réel. Car c'est quand même un effort terrible d'écrire, même si c'est une joie, une console. C'est quand même une manière de se couper du monde, pour le réinventer peut-être, mais de se couper du monde. Je crois qu'il y a, chez tous les écrivains, qu'ils l'avouent ou non, dans le fait de vivre pendant des années, ça dépend des cas, 6 mois, 1 an, 2 ans, dans la création d'un livre, de se retrancher pour écrire, être face à son imaginaire. Ce n'est pas le cas du cinéma où on vit dans un travail d'équipe, même si il y a un travail d'équipe, on est dans l'exaltation d'une œuvre collective que l'on bâtit. Ce n'est pas le cas de l'écrivain qui est vraiment dans la solitude et le silence. Et donc, il y a une sorte de profonde mélancolie. Qu'au fond, le monde ne vous comble pas de bonheur et on a besoin d'en créer un autre à côté, parallèle, pour s'en échapper. Et en même temps, pour l'imaginer peut-être meilleur ou pour se consoler des regrets, des silences, des actions inaccomplies, des sentiments non vécus. Et je pense que ce besoin de consolation des écrivains est considérable. Les écrivains, bon, c'était Calais qui disait « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes », vous savez. Mais bon, c'est une formule qui est brillante, mais tout ça. Mais je crois qu'on n'est pas plein de larmes, on est plein d'encre, mais c'est un peu la même chose, vous voyez. Je crois vraiment que si j'étais quelqu'un qui n'était pas un introverti un peu mélancolique, je passerais pas, Ma femme est une femme qui est heureuse de vivre et me dit, mais elle souffre un peu de me voir m'enfermer pratiquement tous les après-midi sans voir personne. Alors, ce qui explique peut-être que quand je vois des gens, je suis peut-être trop bavard parce que j'ai besoin d'évacuer ce surplus de communication. Mais je sens profondément cela, ce besoin à la fois de se retrancher du monde, de se consoler du monde et essayer de vivre mieux par procuration.
Merci de votre sincérité, Frédéric Bitou. Ainsi s'achève cette émission. Je vous rappelle le titre du livre de Frédéric Bitou, Grand Hôtel Nelson, un livre qui constitue une occasion privilégiée, entre autres choses, de partager un regard très fort et très personnel sur la Belle Époque. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Et mon père était en plus... Mon père est...